Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la Voix des Songes. Aujourd'hui, nous allons conclure notre cycle sur rêves et yoga, en analysant une série de 6 rêves de Paul Éluard, qui est parue dans la revue La Révolution Surréaliste, le 15 avril 1925. Exceptionnellement, pour l'occasion, cette émission va être un petit peu plus longue que d'habitude. Mais avant cela, avant de nous lancer dans l'étude de cette série de rêves, je vous propose un bref rappel théorique des notions entrevues jusqu'à maintenant. Le yoga, c'est l'arrêt des modifications du mental. La conscience a une tendance naturelle à s'identifier à un moi illusoire où règne dispersion, opposition et conflit intérieur. L'arrêt des modifications du mental, par la pratique du yoga, doit amener la conscience à s'identifier au soi, état psychique unifié et total. Ce long processus nous entraîne dans une descente au plus profond de nous-mêmes, que l'on nomme l'inconscient en Occident, dont la représentation s'appuie sur des symboles propres au yoga. Et de rappeler pour insister, si les symboles sont différents entre les cultures occidentales et indiennes, les processus psychiques qu'ils décrivent sont identiques, comme nous avons pu le constater lors de la précédente émission, à travers l'épopée indienne de Rama et la descente en enfer de Dante. Le yoga représente l'âme humaine, la psyché comme un corps subtil qui se superpose au corps physique, composé de chakras et de nadis. Il y a 7 chakras principaux ou centres d'énergie psychique. En partant du sommet de la tête, nous trouvons le Sahasrara ou chakra coronaire. En descendant, on trouve l'Ajna ou chakra du troisième œil, ensuite le Vishuddha ou chakra de la gorge, puis l'Anahata ou chakra du cœur, puis le Manipura ou chakra du plexus solaire, puis le Svadhisthana ou chakra sacré situé au niveau des organes sexuels, et enfin notre descente nous mène au Muladhara ou chakra racine au niveau du coccyx. Le corps subtil est également traversé verticalement par 3 canaux d'énergie principaux, les nadis. À droite, on trouve le canal d'énergie masculine, nommé Pingala, qui correspond à l'animus chez Jung. À gauche, on trouve le canal d'énergie féminine, nommé Ida, qui correspond à l'anima chez Jung. Et au centre, le long de la colonne vertébrale, se trouve le canal Sushumna, le long duquel s'élève la Kundalini éveillée. La Kundalini, justement, est le but de cette descente dans les tréfonds de notre être. Ainsi, tel un chercheur d'or qui chaque jour, inlassablement, creuse un peu plus les entrailles de la terre pour extraire quelques pépites, le yogi, le rêveur ou la rêveuse, l'analysant, finit, après avoir traversé toutes les strates de son histoire, par découvrir le trésor des trésors, la Kundalini, cette énergie unifiée et totale qui sommeille au plus profond de notre inconscient et que Jung a reconnu comme le soi. Une fois que la conscience est parvenue à s'identifier à ce soi individuel, propre à chaque sujet, il faut alors le faire émerger. Ainsi, ce long processus de régression et d'introspection est suivi par un processus d'extraversion et d'épanouissement intérieur. Pour illustrer tout cela, comme je vous l'ai proposé en introduction, nous allons étudier une série de 6 rêves de Paul Éluard. J'ai choisi un personnage de notre temps, cet illustre poète est décédé en 1952, et de notre culture, bien que parfois qualifié de surréaliste, afin de mieux montrer que la connaissance millénaire renfermée dans le yoga est intemporelle et universelle. Commençons par le premier rêve. Au lieu d'une fille, j'ai un fils. Il s'est tiré une balle dans la tête, on l'a pensé, mais on a oublié de lui enlever le revolver. Il a recommencé. Je suis à table avec tous les gens que je connais. Soudain, quelqu'un que je ne vois pas arrive et me dit « Ton fils s'est tiré 7 balles dans la tête, mais il n'est pas mort. » Alors seulement, un immense désespoir m'envahit et je me détourne pour qu'on ne me voie pas pleurer. Paul Éluard était effectivement le père d'une fille et non d'un fils, comme c'est le cas dans le rêve. Cette référence nous permet de rappeler que dans les rêves, tout élément est une représentation de soi-même, de notre réalité psychique inconsciente. L'intérêt de cette distinction entre fille et fils, d'emblée, renvoie à ce que Jung a repéré comme une opposition fondamentale entre le féminin et le masculin, entre l'anima et l'animus, ou encore Ida et Pingala dans le yoga. Et tant qu'il y aura opposition intérieure entre ces deux concepts, il y aura des conflits psychiques. À ce problème de genre, qui apparaît d'emblée dans ce premier rêve, est liée la notion de conflit psychique symbolisée par le fait que le fils se tire 7 balles dans la tête. Cette représentation onirique violente renvoie à un conflit psychique au niveau du Sahasrara, le chakra coronaire au sommet de la tête. Contrairement à l'idée souvent répandue selon laquelle ce chakra est le siège de la conscience la plus haute, en réalité, ce centre psychique est le siège de la conscience, qui au départ s'identifie naturellement au moi. Un moi illusoire et incomplet, marqué chez Paul Éluard par un problème d'identification aux images féminines et masculines, à l'anima et l'animus, à Ida et Pingala. Cette séparation des genres se traduit ici par un conflit psychique, marqué par une violence intérieure en lien avec l'énergie masculine, l'animus, Pingala. Tant que ce conflit existe et s'exprime en lui, Paul Éluard, comme n'importe qui d'autre, peut en effet se sentir envahi par un profond désespoir. Le fait de se tirer une balle dans la tête peut aussi faire référence à une prise de conscience difficile, douloureuse. Cependant, le fils ne meurt pas dans le rêve, ce qui viendrait signaler que cette prise de conscience n'est pas complète, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas un arrêt des modifications du mental, souvent symbolisées par la mort dans les rêves. La mort marque l'arrêt radical des conflits, des oppositions, des idées et comportements destructeurs qui nous animent. Ici, ce n'est pas le cas, ce qui peut renforcer cette idée de désespoir. À noter que dans ce rêve inaugural, le fils se tire 7 balles dans la tête, soit autant que le nombre de chakras, ce qui est une indication a priori que cette thématique de la violence liée au rapport homme-femme va se retrouver et s'exprimer à travers ces différents niveaux de conscience, comme nous allons le voir dans la suite de notre analyse. Poursuivons avec le deuxième rêve. Je feuillette le journal littéraire, d'ordinaire sans intérêt. Le numéro que j'ai dans les mains contient de nombreuses photographies de généraux et de camps d'Afrique. À la dernière page, une grande photographie intitulée « L'armée française » représente 3 soldats, l'un derrière l'autre. Mais entre le premier et le second se trouve ma femme, habillée à la mode excentrique de 1900 et qui tient à la main une ombrelle. Sur le côté, un général beurre, avec une longue barbe, une redingote et un chapeau haut de forme. J'apprécie vivement. Dans ce rêve, la prise de conscience est enclenchée et apparaît dans le fait que Paul Éluard feuillette un journal que d'ordinaire il juge sans intérêt. Mais dans quel domaine s'exprime cet intérêt nouveau? Si dans le premier rêve, il était question de la tête, et donc du monde des idées, ici, il est question de photographie et donc du monde des images qui renvoie au chakra Ajna, le centre psychique du troisième œil. La violence évidente au rêve précédent réapparaît sous les traits des 3 soldats de l'armée coloniale, tels les 3 canaux d'énergie qui parcourent le corps subtil. Ida, l'anima, sous les traits de sa femme, Pingala, l'animus, sous les traits du général, et enfin le dernier canal, la Sushumna, grâce auquel le soi va s'élever jusqu'au sommet de la tête. Ce dernier n'est pas clairement identifié, car on n'est pas encore prêt à faire appel à ses services. Le fait que Pingala apparaisse sous les traits d'un général peut renvoyer à cette violence initiale en lien avec l'animus, qui ici semble retenu, apaisé, peut-être par ce rapprochement avec l'anima. Et Paul Éluard de conclure ce rêve par « J'apprécie vivement ». Maintenant, le rêve 3. G, il n'y a que l'initiale, mais on peut raisonnablement l'identifier à sa femme, surnommée Gala. Donc Gala a été coquette avec son voisin. Elle a même été jusqu'à lui proposer sa photographie et son adresse. Sur un ton méprisant, il est vrai. Nous sommes alors devant la gare du Nord. Je tiens un pot de colle et, furieux, j'en débarbouille le visage de Gala, puis je lui enfonce le pinceau dans la bouche. Sa passivité augmente ma colère. Je la jette en bas des escaliers. Sa tête résonne sur la pierre. Je me précipite et constate qu'elle est morte. Je la prends alors dans mes bras et pars à la recherche d'une pharmacie. Mais je ne trouve qu'un bar qui est à la fois bar, boulangerie et pharmacie. Cet endroit est complètement désert. Je dépose Gala sur un lit de camp et m'aperçois qu'elle est devenue toute petite. Elle sourit. Ma douleur ne vient pas de sa mort, mais de l'impossibilité de pouvoir la rendre à sa taille normale, idée qui m'affole complètement. Au début de ce rêve, on poursuit le mouvement de rapprochement entre Ida, l'anima, et Pingala, l'animus, opéré au rêve précédent. Gala propose au voisin sa photographie et son adresse, mais sur un ton méprisant. Cette précision évoque la transition entre le monde des images et le monde des mots, qui correspond davantage au chakra Vishuddha, le centre psychique qui contrôle aussi bien la bouche que la gorge. Il est donc toujours question du visage. Ce rapprochement entre Ida et Pingala prend alors une tournure violente. Au-delà de la description d'un acte sexuel brutal, la passivité de la femme dans le rêve renvoie au manque d'énergie féminine, au manque de puissance d'Ida, de l'anima, pour s'opposer à la fureur de Pingala, l'animus. Si on s'en tient au contenu manifeste du rêve, en jetant sa femme en bas des escaliers, on pourrait penser que Paul Éluard était un mari violent qui aurait mérité que sa femme le quitte. Ce serait de la psychologie de comptoir. Maintenant, si on tente de percer le contenu latent du rêve, en gardant à l'idée que dans un rêve, tout est une image de soi-même, cette chute des escaliers peut faire référence à une régression, une introspection vécue violemment. La tête, d'ailleurs, résonne sur la pierre. Et le terme « résonne », qui a une signification différente selon comment on l'écrit, peut être entendu d'une manière différente. La tête résonne, car le rêveur vient de prendre conscience de quelque chose. Sur la pierre, car le rêveur s'est confronté à un matériau psychique dense et dur, tout comme le mineur auquel je faisais référence dans l'introduction. Et désormais, la référence à la mort apparaît clairement. Et c'est sa femme qui meurt dans le rêve. Cette représentation peut renvoyer à la relation à sa femme qui, à l'époque, on est en 1925, le trompait déjà. Mais aussi et surtout, c'est une certaine image intérieure de la femme, de l'anima, d'Ida, passive et faible, qui est tuée. Ce passage est en lien avec le chakra Anahata, le centre psychique des sentiments, des passions, situé au centre de la poitrine. Par la suite, il cherche à lui venir en aide en trouvant une pharmacie qui est aussi un bar et une boulangerie, et comme très souvent, ce rapport aux soins du corps et à la nourriture renvoie au chakra Manipura, le plexus solaire. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire, car cet endroit est complètement désert. Cependant, Gala est devenue toute petite, ce qui renforce l'idée que l'image intérieure de la femme est grandement diminuée chez Paul Éluard. Mais désormais, il en a conscience, et c'est ce qui l'affole. Passons au rêve 4. Ce jour-là, je reçois, dans un jardin comme je les aime, diverses notabilités, notamment la présidente de la République, une grande femme très belle, à peu près à l'image conventionnelle de Marianne. Nous nous promenons avec sa suite dans des allées bordées de buis et d'ifs très bien taillés. Au bout d'une allée, une grande porte composée dans sa surface de plusieurs autres portes, une dorée, une rouge, une noire, une verte et au milieu, la plus petite, blanche. Tous les gens qui m'accompagnent ont chacun une clé différente. Je dois deviner quelle est la bonne, sinon tout le monde s'en ira. Je propose de la jouer aux cartes. Refus. Ce n'est plus la présidente, mais le président de la République que j'ai à mes côtés. Il s'en va, je l'accompagne poliment. Dans ce rêve, le jardin où Paul Éluard rencontre une belle femme de la plus haute dignité correspond au chakra Svadhisthana, le centre psychique sexuel. Cette lecture est confirmée par la présence d'allées bordées d'arbres bien taillés qui mènent à une grande porte. Ici, pas besoin d'expliciter la référence à l'anatomie féminine. Alors que le rêve précédent s'est fini sur une image diminuée de la femme, ici on rencontre des images de la plus haute dignité, la présidente Marianne. Cela fait penser au phénomène d'idéalisation, tel que défini par Freud, qui peut servir de mécanisme de défense en compensant artificiellement les manques profonds de la personne. Ainsi, pour pallier à une image défaillante de la femme, il fait appel à des représentations grandes, fortes, belles et puissantes pour combler les failles de son anima, Dida. La référence aux 5 portes et aux clés censées les ouvrir renvoie évidemment à l'acte sexuel, mais aussi et surtout à l'unification entre Ida et Pingala, entre l'anima et l'animus, entre les énergies féminines et masculines. Et sur cette question-là, on s'aperçoit que Paul Éluard est mis en échec. Il ne sait pas quelle clé correspond à quelle porte. Mais c'est quelque chose que nous devons toutes et tous découvrir. Comment procéder à cette unification intérieure? Le problème vient surtout qu'il propose de solutionner cela aux cartes, comme si c'était un jeu. Et là, il se voit opposer un refus ferme. Ce n'est alors pas étonnant qu'une figure masculine puissante apparaisse sous les traits du président de la République. On pourrait évidemment analyser ce rêve sous le prisme de la relation œdipienne, à travers la relation à la mère, puis au père, mais ce n'est pas le but de mon propos aujourd'hui. Intéressons-nous au rêve 5. Une jeune femme d'apparence très malheureuse vient me voir à mon bureau. Elle tient dans ses bras un enfant nègre. Nous ne parlons pas, je cherche comment cette femme, assez jolie, mais si pauvre, peut avoir un enfant de cette couleur. Mais soudain, elle s'avance vers moi et m'embrasse sur la bouche. J'ai alors l'impression, mais seulement l'impression, de tout comprendre. La question de l'unité ne semblait pas résolue au rêve précédent, et pourtant un enfant, symbole de l'union entre les énergies masculines et féminines, apparaît désormais. Alors « nègre » a une connotation très péjorative de nos jours. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ce détail pigmentaire pourrait faire référence à une position politique raciale, mais dans le cas de Paul Éluard, on peut grandement en douter. Comme c'est le cas de l'immense majorité des personnes blanches qui rêvent de personnages noirs. Car cette couleur est porteuse d'une symbolique universelle, quelle que soit la couleur de la peau. Dans toutes les cultures, la couleur noire est en rapport avec la nuit, avec l'absence de lumière, comme dans une cave ou une grotte. Ce manque d'éclairage symbolise donc le mystère, l'inconnu, l'inconscient. On se situe ici au niveau du Mooladhara, le chakra coccygien, le centre d'énergie psychique le plus profond. Alors, quel est le rapport avec cet enfant? En tant que symbole d'union, l'enfant est ici une représentation onirique de l'unité d'Ida et de Pingala, c'est-à-dire la Kundalini, le soi individuel qui sommeille à la base du Mooladhara et du corps subtil. Est-ce que c'est sa présence qui apparaît mystérieuse aux rêveurs, bien que cela corresponde à une logique inconsciente, comme nous l'avons démontré, qui fait que l'enfant est noir? Ou, en tant que symbole du soi, on peut avancer que la conscience de Paul Éluard ne s'est certainement pas identifiée à la totalité du soin individuel et que cette totalité lui est encore inconnue, donc sombre. Dans ce rêve, l'image de la femme est à nouveau faible, pauvre. Paul Éluard essaie de comprendre comment, à partir d'une telle représentation intérieure de la femme, il a pu parvenir à l'émergence du soi sous les traits de cet enfant. Le baiser qu'elle lui administre, grand symbole de l'unification d'Ida et de Pingala, de l'anima et de l'animus, provoque une véritable prise de conscience. J'ai alors l'impression, mais seulement l'impression, de tout comprendre. Désormais, ce processus d'unification intérieure s'imprime en lui. Pour finir, le rêve 6. C'est sur un trottoir de Paris, dans une rue déserte, que je la rencontre. Le ciel, d'une couleur indécise, me donne le sentiment d'une grande liberté physique. Je ne vois pas le visage de la femme qui est de la couleur de l'heure, mais je trouve un grand plaisir de ne pas détacher mes regards de l'endroit où il est. Il me semble vraiment passer par les quatre saisons. Au bout d'un long moment, la femme défait lentement des nœuds de rubans multicolores qu'elle a sur la poitrine et sur le ventre. Son visage apparaît alors, il est bollant et dur comme le marbre. On est maintenant tourné vers le ciel. La conscience est retournée trôner au sommet de la tête, au niveau du chakra Sahasrara, ce qui procure une grande liberté physique, comme souvent. On voit que le processus d'unification entre Ida et Pingala, l'anima et l'animus, n'est pas total. Il est incomplet car le visage de la femme est toujours indistinct. Mais, à travers les processus psychiques décrits dans cette série de rêves, Paul Éluard en retire quand même un grand plaisir, ce qui témoigne d'un épanouissement intérieur nouveau en lien avec ce qui faisait défaut au départ. Un problème de genre, un problème dans la relation entre Ida et Pingala, l'anima et l'animus, les énergies féminines et masculines, source de conflits psychiques et de violences autodestructrices. Et la clé de ce dénouement se situe au niveau de la poitrine et du ventre, correspondant respectivement aux chakras Anahata et Manipura, qui sont apparus de manière très succincte dans cette série. Mais cette confrontation intérieure avec soi-même permet à Paul Éluard de contempler une nouvelle facette de sa personnalité. Son visage apparaît alors. Blanc, car débarrassé de ses scories, mais aussi vierge, donc à découvrir, et dur comme le marbre, car le matériau psychique reste solide, compact, et le travailler, en prendre conscience, peut être source de douleur. Voilà globalement ce que l'on pouvait dire sur cette série de rêves de Paul Éluard en lien avec la symbolique du yoga. Cette vision originale des processus psychiques, ainsi mis en évidence à travers les rêves, offre une lecture complémentaire de la dynamique intérieure qui anime toute personne. Cette approche permet notamment de mettre en évidence les liens entre la psyché et le corps, et elle se révèle surtout un outil de suivi de l'analyse précieux pour le psychothérapeute. Évidemment, on aurait pu en dire bien davantage sur cette série de rêves, mais nous en resterons là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, faites de beaux rêves!